Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Le 24 avril 1988 était béatifié le père François Palao, frère carme espagnol. Il a vécu entre 1811 et 1872. Il a vécu 10 ans en France et a installé deux communautés près du sanctuaire marial de Notre-Dame de Livron et de Caylus dans le Tarn-et-Garonne. Nous découvrons aujourd'hui ce mystique qui considérait que la rénovation spirituelle de l'Église et de la société passait par la formation de chrétiens solidement enracinés dans leur foi. Un guide pour notre temps. Le père Francisco Palao, c'est ce saint du Carmel que nous suivons aujourd'hui. Et pour nous accompagner, l'invité de Vivante Église est Robert Jiménez. Bonjour.
Bonjour.
Merci pour votre venue à Radio Présence.
Merci de m'inviter.
Et vous êtes diacre permanent du diocèse de Montauban.
Oui.
Alors, je voudrais que, avant de nous plonger dans la vie de ce mystique espagnol, que vous nous disiez en quelques mots, comment vous l'avez découvert, ce saint ?
Dans mon
parcours...
Enfin, ce
saint, pas ce saint, mais
oui,
ce bienheureux.
Dans mon parcours d'église, moi, je suis revenu à l'église au début des années, au début des années 2000, lorsque mon épouse a été baptisée. J'étais très, très loin de l'église, mais j'ai fait mon retour en église à ce moment-là. Et puis, on nous a amené visiter la communauté de Saint-Pierre de Livron, des sœurs carmélites missionnaires. Et c'est là que j'ai fait leur connaissance. Moi, je découvrais l'église, je ne connaissais rien. Et petit à petit, ces sœurs carmélites missionnaires, je me suis découvert beaucoup de liens avec elles. D'abord, des liens de sympathie par la langue espagnole, puisqu'il y a beaucoup d'Espagnols parmi elles ou de sœurs qui viennent d'Amérique du Sud.
Et vous me disiez que vous êtes un fils de réfugié espagnol.
Et moi, je suis fils de réfugié espagnol, de républicain. Donc, il y a eu cette sympathie de la langue. Et puis, très vite aussi, leur spiritualité, leur façon de vivre l'Église, qui m'a beaucoup accroché. Moi, je découvrais, j'étais curieux de tout découvrir.
Parce et c'est elles qui vous ont fait découvrir Francisco Palao, alors ?
Elles m'ont bien sûr aidé à découvrir Francisco Palao petit à petit. Et j'ai commencé à lire, voilà. Et ça nous a rapprochés de plus en plus. Et j'ai été... c'est maintenant une communauté avec laquelle j'ai des liens très, très forts et une proximité spirituelle très forte.
Mmh. Alors, et donc, vous avez travaillé sur la vie et les écrits de Francisco Palao.
Oui.
On va dérouler un petit peu sa vie, puis vous pourrez nous dire au fur et à mesure ce qu'il nous apporte pour
Bien
notre
sûr.
Temps. Francisco Palao est né le 29 décembre 1811. Il a vécu dans l'histoire tourmentée de l'Espagne du 19e siècle. Quelles étaient ces particularités de cette histoire et comment il les a vécues ?
Alors, lorsque... Palao naît en 1811. Il faut savoir que l'Espagne est occupée depuis 1808 par les troupes de Napoléon.
Oui.
Napoléon a envahi l'Espagne sous prétexte de se rendre au Portugal. C'était au départ la proposition de départ, mais très vite il s'est installé en Espagne et il y a eu une résistance très très forte, évidemment. Ça a été une guerre, hein, une véritable guerre en Espagne et en Catalogne en particulier. Autour de Lérida, là où le père Palao est né, bien les troupes se sont installées à domicile avec tout ce que ça veut dire. Une armée installée à la campagne, à Etona, c'est le nom du petit village où est né Palao. Il faut savoir qu'il y avait par exemple une garnison de Napoléon qui était installée et qui vivait, comme on dit familièrement, sur l'habitant.
Et donc, qui prenait toutes les réserves de la population.
Et qui prenait toutes les réserves, qui se nourrissait avec tout ce que ça suppose de difficultés, de violences. Les hommes à la campagne et dans ce petit village en particulier, mais partout en Catalogne, en Aragon, eh bien, étaient soit partis, soit s'enfuyaient pour résister, soit étaient enrôlés de force. Enfin, c'était les travaux des champs eux-mêmes étaient mis à mal. Et c'était une période d'anarchie et de violence très, très grande. Et c'est dans ce climat que va naître... Francisco Palao, qui est donc dans ce petit village d'Etona, en pleine occupation napoléonienne. Elle se poursuivra jusqu'en 1814.
Hey.
C'est-à-dire que lorsque Napoléon va quitter l'Espagne, Francisco Palao a 3 ans. Et à ce moment-là, donc en 1814, c'est le retour de Ferdinand VII. Le retour de Ferdinand VII, mais ça ne va pas régler tous les problèmes parce qu'on va rentrer avec lui dans une période d'absolutisme assez tyrannique, si on peut dire,
Et avec
très
une
dure.
Persécution pour l'Église, en fait.
Avec des persécutions pour l'Église. Et l'Église, c'est certainement ce qui caractère, en plus de l'instabilité sociale et du chaos social dans lequel était l'Espagne, l'Église elle-même était dans une période de déséquilibre et dans une période aussi de souffrance, de grande souffrance, avec des prêtres et des religieux qui ne savaient plus où ils en étaient. Il va y avoir tout un mouvement libéral qui se crée en Espagne contre l'absolutisme de Ferdinand VII, mais aussi très anticlérical. Très anticlérical.
Et donc il y a eu une division finalement dans l'Église entre ceux qui restaient fidèles au régime de Ferdinand VII et puis ceux qui restaient fidèles à l'Église.
Tout à fait. À l'intérieur des couvents eux-mêmes, dans lesquels Palau rentrera plus tard, bien, on commence à voir des religieux, certains qui vont être tentés par la mondanité, d'autres qui vont être tentés par un retour dans le monde, mais on ne sait pas trop sous quelle forme. Certains qui, au contraire, vont se crisper en essayant de se réfugier dans une prière à outrance. Enfin, les religieux eux-mêmes, à l'intérieur, par exemple, des couvents de Père Carme, ne savent plus trop où ils en sont. Et puis après, ils vont être dissous.
Donc oui, là, c'est ça, il y a une dissolution des ordres religieux.
Ils vont être dissous et chassés de leur couvent.
Ouais.
Donc là, ça sera encore autre chose.
Oui. Alors, à 14 ans, donc nous sommes en 1825, avec la bénédiction de ses parents, Francisco Palau quitte Aitona et il s'installe à Lérida. Il entre au séminaire à 17 ans. Quel jeune était-il ?
Mais c'était un jeune qui, depuis déjà son enfance, portait en lui une... Père Palau sentait en lui une présence forte, le besoin d'un amour, une présence d'amour, mais qu'il n'arrivait jamais à définir. Et d'ailleurs, il va mettre une grande partie de sa vie à découvrir qu'est-ce que c'est que cette présence d'amour qu'il porte, ce besoin de prière, ce besoin d'église. Il est bien sûr né dans un milieu très religieux, comme tout le milieu rural de cette époque-là, dans une église où la pratique religieuse, c'est 100% pratiquement du village. Et donc, il est imbibé de pratiques religieuses, mais beaucoup plus profondément déjà d'une, ce qu'on pourrait appeler une forme de spiritualité enfantine, où il y a une présence en lui de quelque chose qu'il ne sait pas définir. Mais c'est le curé de son village qui va remarquer quand même qu'il a affaire à un enfant très vif, intelligent et qui mériterait d'aller beaucoup plus loin que les quelques années d'école primaire dans son petit village. Et donc, c'est pour ça qu'il sera envoyé à Lérida et puis au séminaire à Barcelone.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, entrer au séminaire et au petit séminaire avant, c'était une façon de poursuivre ses études.
Absolument, c'était
de façon
une
moins,
chance.
Moins coûteuse. Oui.
Et il a vécu ce paradoxe dans sa jeunesse et dans son enfance d'être à la fois... d'avoir cette chance extraordinaire d'être remarqué et de pouvoir sortir de ce milieu de vie quand même très, très difficile, où la Catalogne essayait de se relever, était dévastée complètement, essayait de se relever, et en même temps d'être dans une ambiance anti-religieuse, anti-cléricale, de violence permanente. Il y avait de véritables bandes armées partout. C'était quand même très, très compliqué pour lui. Il a vécu ce paradoxe et il a eu cette chance de partir à Lérida, puis à Barcelone, au séminaire.
Voilà. Et donc, il entre d'abord au séminaire. Il y est entouré de Carme Deschaux et c'est à leur contact qu'il se décide à entrer au Carmel de Barcelone. Il a 21 ans. Alors, là aussi, il ne rentre pas dans un climat des plus apaisés.
Ah non, là, quand il arrive dans les Carmes Deschaux, évidemment, bien, ces Carmes Deschaux qui ont été autorisés un petit peu à retourner dans leur couvent ne sont quand même pas dans une situation très, très brillante parce qu'ils essaient de reconstruire une vie religieuse, mais avec beaucoup de difficultés. Beaucoup de bâtiments de couvents ne leur étaient même plus accessibles. Ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, ce qui explique que, par exemple, le père Palau, à cette époque-là, le tout jeune, qui a une vingtaine d'années, qui a 17 ans lorsqu'il va partir, lorsqu'il va entrer, ensuite il a 20 ans, lorsqu'il entre au Carme Deschaux, 20-21 ans, Il va se trouver à Barcelone, mais dans un endroit où sont concentrées à la fois la formation et la vie conventuelle elle-même, ce qui normalement n'est pas très bon. Mais c'est l'époque qui oblige à ça. Et donc, il est dans un milieu où il faut vraiment avoir une fibre spirituelle profonde pour s'accrocher. Et lui a cet appel profond et il le sent et c'est ça qui le tient.
Et c'est ça ce qui l'attire finalement dans la vocation carmélitaine ?
Absolument. Il a beaucoup étudié, c'est certainement ce qu'il avait en lui depuis l'enfance, ce qui l'a attiré, ce besoin contemplatif, ce besoin de prière. Et au séminaire, il a trouvé bien des pères carmes qui étaient dans le jury, qui étaient aussi des enseignants, et qui l'ont remarqué eux aussi probablement. Et la communion entre eux s'est faite très vite et très rapidement. Et le père Palau a certainement vu dans l'entrée dans les couvents des carmes avec les pères carmes, eh bien, quelque chose qui correspondait à cette attente qu'il porte en lui, mais qu'il ne sait pas trop définir. Et donc là, il va quitter le séminaire, il va renoncer à sa bourse. Il avait une bourse, parce que sinon, il ne pouvait rien faire. Il va renoncer à cette bourse et il va dire, bon, ben, maintenant, je rentre au séminaire.
Ouais. Et donc, c'était une décision complètement libre. Il a longuement réfléchi, il l'a réalisé en pleine connaissance de cause.
Et libre et très courageuse. Parce que dans le climat de l'époque, devenir religieux, c'était risquer sa vie, clairement. C'était risquer sa vie. On a engagé sa vie en sachant qu'à n'importe quel moment, ça pouvait se terminer très, très mal.
Oui, parce qu'entre 1833 et 1879, il y a trois guerres carlistes qui se succèdent. Oui. Donc, une guerre civile qui a des conséquences sur les Carmes des Chaux et donc sur la vie de Francisco Palau. Oui. Par quoi ça se traduit, ces difficultés ?
Et ça se traduit par des périodes de violence. Il va y avoir la première guerre carliste qui va commencer à la mort de Ferdinand VII en 1833. Ferdinand VII meurt en décembre et à ce moment-là, il n'a pas d'héritière, donc il a juste Isabelle qui a 3 ans, sa fille, mais il n'y a pas d'héritier mâle. Et le roi Ferdinand VII désigne quand même comme héritière du trône Isabelle. Mais son frère Carlos, qui s'appelle Carlos, d'où le nom de guerre carliste, refuse ça. Oui. Et lui, il va mettre en place une véritable armée. Il va créer tout un mouvement clandestin, un vrai gouvernement clandestin qui va s'opposer au gouvernement de Madrid. Et ce gouvernement va être très très fort en Catalogne en particulier. Les guerres carlistes, à partir de 1833, vont ravager la Catalogne. C'est une guerre civile.
Et pourquoi ils s'en prennent aux communautés religieuses à nouveau ?
Alors, ce n'est pas directement les carlistes qui s'en prennent aux communautés religieuses, c'est les mouvements libéraux. Parce que les mouvements libéraux vont assimiler le carlisme. C'est quelque chose qui reposait sur une vue très, très étroite de la vie religieuse et qui s'appuyait sur une pensée religieuse, mais absolument étroite et très violente, on pourrait dire. Et donc, les religieux et les prêtres sont assimilés au mouvement carliste, même s'ils n'y sont pas. Et donc, le mouvement libéral qui est né en Espagne depuis déjà de nombreuses années, qui se structure, bien, ce mouvement libéral, de manière indifférenciée, va s'en prendre à tout ce qui porte un habit religieux, que ce soit des prêtres ou que ce soit des moines, des religieux, des religieuses, ils vont tous être visés.
Et pour le couvent dans lequel est Francisco Palau, quelles sont les conséquences ?
Mais Francisco Palau, en 1835, il va y avoir une émeute à Barcelone. Ça, c'est une date très importante. 1835, ce sont les libéraux, ce ne sont pas les carlistes, c'est les mouvements libéraux, mais livrés vraiment à des mouvements très violents qui vont prendre d'assaut les couvents, tous les couvents, qui vont les vider. Il va y avoir des centaines, des milliers de religieux qui vont être expulsés,
dispersés,
beaucoup d'entre
eux
assassinés. Purement et simplement, et le père Palau va échapper de justesse. Il était déjà au couvent à ce moment-là, en 1835, il n'était pas encore prêtre, mais il était Il a été nommé prêtre plus tard, mais il va échapper de justesse et il va se réfugier dans son petit village d'Etona.
Oui,
il va revenir à Etona.
Ça
va lui sauver la vie et plus tard il écrira sur ça et il dira qu'il a été sauvé un peu par une main de sa bien-aimée. La main de sa bien-aimée, c'est l'Église.
Oui.
Et donc, c'est ce qu'a subi le père Palau, cette violence. C'était une guerre civile, hein, il faut en être, dans une vraie guerre civile. Et les religieux faisaient les frais de cette guerre civile. Ils étaient comptés dans le camp des carlistes, même s'ils n'y étaient pas. Et le père Palau s'est toujours défendu d'être dans un camp, quel qu'il soit. Mais ça servit à rien.
Ouais, et le père Palau donc se cache. Et puis finalement, il est ordonné prêtre en 1836.
Oui.
Là, pas simple non plus d'exercer son ministère.
C'est pas simple du tout, parce que être prêtre, c'était quand même très aléatoire. Et en fonction des mouvements sociaux, en fonction des différents gouverneurs provinciaux qui étaient là, tantôt on lui accordait le droit d'être prêtre, de confesser, de célébrer, puis à d'autres moments on lui a retiré le droit de confesser, de célébrer, puis on le lui redonnait, c'est-à-dire qu'on était dans un désordre total. Et l'Église elle-même était soumise à ce désordre et désarticulée. L'Église est totalement désarticulée. Il faut être courageux pour rester prêtre à ce moment-là.
Oui, parce qu'il est resté fidèle à l'Église, fidèle aux âmes qu'il devait accompagner.
Absolument. Et fidèle à son habit de père carme. On en reparlera peut-être plus loin. On va retrouver ça plus loin. C'est une des caractéristiques du père François Palau. Jamais il n'a voulu quitter son habit de carme. C'est-à-dire que jusqu'au bout, dès le départ et jusqu'au bout, il dit « Moi, je suis carme. On m'a fait sortir du couvent par la force, mais on ne m'empêchera pas d'être carme. Et je reste un carme, et il est carme totalement et jusqu'à sa mort, et quand il est en France, ça sera pareil, il est avec l'habit des carmes. Et il est prêtre en même temps, évidemment, très attaché à l'Eucharistie, à la célébration. Mais il est carme, et c'est un père carme qui est ici sur les routes de France et d'Espagne.
Et oui, parce qu'en fait, il devient missionnaire apostolique entre 1838 et 1840 pendant 2 ans. Il se donne corps et âme à sa mission et puis il est exilé en France. Il s'éloigne de la frontière pour se protéger et c'est comme ça finalement qu'il arrive dans le diocèse de Montauban.
Exactement. Il va passer un an et demi à Perpignan et autour. Son premier souci à Perpignan sera d'ailleurs d'aller trouver l'évêque pour avoir l'autorisation de célébrer, de confesser.
Ah oui.
Ça dit quelque chose sur sa démarche. Il refusera toutes les aides qu'on accordait aux réfugiés espagnols. Il faut savoir qu'il y a 30...
Pourquoi, pour rester libre, pour
Oui, exactement, pour garder sa liberté de mouvement. Parce qu'on accordait des aides, mais à partir de ces aides, ça veut dire aussi qu'ils étaient dans des camps particuliers.
Oui.
Et lui, il dit non, moi j'ai besoin de rien. Avec quelques compagnons, il va dire nous, on va partir. On a besoin de rien et on ne demande rien. Il garde sa liberté, la première démarche. C'est d'aller voir l'évêque pour dire « Je veux pouvoir célébrer en France et prêcher et confesser. » Ça va lui être accordé à Perpignan. Après, il va venir à Montauban.
Alors, c'est ça ce qu'on va voir. Et je vous propose, Robert Jiménez, d'en parler juste après la pause musicale.
Oui.
Nous écoutons un chant grégorien à Notre-Dame du Mont-Carmel, « Flos Carmeli ».
Flos Carmeli, vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singulari.
Mater mitis et virinescia, Carmelitis est propitia.
Radix Iesse in germinans flosculum, nos ad esse tecum in seculum patiari.
Inter spinas, quae crestis lilium, serva poras, mentes fragili.
Armatura fortis pugnantium furunt bella tende presidium scapularie.
Per incerta prudens concilium, per adversa iuge solatium, largiari.
Mater dulcis Carmeli Domina, plebem tuam reple letitia, qua beari.
Paradisi, clavis et genua, fac nos tutsi, quo mater gloria,
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
François Palao, bienheureux du Carmel pour notre temps. C'est sa vie que nous découvrons aujourd'hui avec Robert Jiménez. Juste avant la pause musicale, vous nous disiez que François Palao s'était installé dans le diocèse de Montauban à partir de 1842. Il va y rester 9 ans. Qu'est-ce qu'il y fait exactement ?
Alors, dans ce diocèse, il va rester d'abord un an à Montauban. On n'a pas trop de traces de ce qu'il a fait. Et puis, il va quitter Montauban parce qu'il a certainement cherché un lieu où il pourrait vivre sa spiritualité et sa prêtrise, parce que les deux sont pour lui très importantes. Et il va découvrir le sanctuaire de Livron, qui est un sanctuaire marial, Notre-Dame de Livron, tout près de Caylus, sur le village de Saint-Pierre de Livron. Et c'est un père carme. Et il est père carme avant tout, et prêtre en même temps, mais père carme. Ben, pour un père carme, la spiritualité mariale, évidemment, lui découvrir ce sanctuaire de Livron qui est là depuis le Moyen-Âge et qui avait à l'époque un grand retentissement dans toute la région. Aujourd'hui, le sanctuaire de Livron a perdu beaucoup de son rayonnement. Il n'a plus ce rayonnement, mais à l'époque... Et pendant très très longtemps, le sanctuaire de Livron va être un lieu de pèlerinage très important. On viendra depuis le Lot et depuis très très loin, tous les ans, à beaucoup d'occasions pour des pèlerinages importants.
Et donc François Palao se fixe finalement dans ce sanctuaire.
Il va se fixer finalement dans ce sanctuaire et autour, mais c'est quelqu'un qui circule sans arrêt. Il circule sans arrêt. Il a des périodes où il a besoin de contemplatif. Il va se retirer dans la grotte de Mont-Désir, qui était tout près de l'actuel château de Mont-Désir, où au-dessus du sanctuaire, il y a une autre grotte qu'on peut visiter, qui est restée, et dans laquelle il s'installait pendant des périodes entières parce qu'il avait besoin de ces temps contemplatifs.
Et c'est peut-être ces temps contemplatifs qui lui ont permis d'écrire, et notamment il publie un premier livre qui s'appelle « La lutte de l'âme avec Dieu ».
La lutte de l'âme avec Dieu, oui, qu'il va écrire en 1843. C'est au début de son séjour en France, et ce livre a toute une histoire. L'Église espagnole est dans un état de délabrement très très avancé et de très grande souffrance. Elle est dans un tel état de souffrance que le pape lui-même de l'époque va appeler à prier pour l'Église d'Espagne. Il a dit « l'Église d'Espagne a besoin de prière ». Et le père Palao, qui est en France à ce moment-là, entend cet appel. Il entend cet appel du pape et il va écrire ce livre « Lutte de l'âme avec Dieu » qui est un appel à la prière pour sauver l'Église d'Espagne.
D'accord.
Et ce livre est écrit sous forme de dialogue. C'est un livre qui est écrit comme un dialogue, mais qui
entre
appelle...
Entre qui et qui, alors ? Entre qui et qui, ce dialogue ?
C'est un dialogue entre un accompagnateur spirituel, si on peut dire, et puis une personne qui demande « mais pourquoi faut-il prier ?» Et c'est une forme, disons... C'était déjà très moderne d'avoir cette idée pour que ça passe mieux. Il y a là-dedans toute une théologie de la prière, mais le fond, c'est de dire qu'il faut vraiment lutter avec Dieu. On retrouve la lutte de Jacob avec l'ange. Il y a un petit peu de ça là-dedans, mais lutter avec Dieu par la prière pour que Dieu sauve l'Église. Et on ne lâche pas Dieu tant qu'il n'a pas sauvé l'Église d'Espagne. C'est un combat, mais un combat positif avec Dieu. pour qu'il sauve l'Église d'Espagne. Et c'est la force de la prière, ça aussi, Père Palau est un homme de prière totalement, comme tous les pères carmes, mais... Et c'est le sens de ce livre « Lutte de l'âme avec Dieu » qu'il a écrit en France.
Et puis après, donc le père Palau, il circule donc entre Montauban, enfin il est parti de Montauban et puis après le sanctuaire Notre-Dame de Livron, et puis il va jusque dans le Lot.
Il va jusque dans le Lot, il circule tout autour, et il commence à être connu. Il a obtenu bien sûr de l'évêque de Montauban, qu'il est allé voir, l'autorisation de célébrer et l'autorisation de confesser. Il peut donc exercer sa vie de son ministère de prêtre. Mais là aussi, il va avoir des ennuis parce que ça va créer des jalousies. Il a un tel rayonnement et un tel charisme qu'on va petit à petit à Caylus, autour de Caylus, Notre-Dame de Livron, de Saint-Pierre de Livron. Les gens vont venir à la messe dans la grotte, ils célèbrent, et les gens vont venir à la messe avec lui. Il va y avoir des jalousies avec les prêtres du lieu,
des paroisses,
avec le curé du lieu qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce bonhomme qui attire nos paroissiens chez lui ?» Ils vont à la messe chez lui, et donc là, il va y avoir des jalousies, il y aura quelques soucis aussi avec l'évêque de Montauban, parce qu'il va y avoir des plaintes déposées, enfin, il y a...
Et donc, ce père Palau, il est persécuté encore à ce moment-là.
Et il va être persécuté, le mot est peut-être fort, mais poursuivi et mis en cause, à la fois, à un moment donné, l'évêque de Montauban va même lui interdire de célébrer. Tellement les plaintes des curés autour, parce qu'il allait très loin, il circulait beaucoup.
Qu'est-ce qu'il fait ? Il désobéit ou...
Et alors il obéit. Père Palau va obéir. Et alors on va voir le père Palau pendant toute une période. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, parce qu'on lui redonnera l'autorisation de célébrer. Mais il va aller à la messe à Saint-Pierre-de-Livron, qui est tout près de Caylus. Il va aller à la messe et il va s'asseoir dans l'assemblée pour pouvoir communier. Comme un frère, comme un paroissien quelconque. Et il va obéir tout à fait. Il est très obéissant à l'Église. Il a un sens de l'obéissance. Il est aussi obéissant que combatif. Il a ces deux facettes.
Oui. Alors, il retourne quand même en Espagne en 1851. Oui. Et là, il est nommé directeur du séminaire de Barcelone. Il accorde une grande importance à la formation religieuse. Et ça fait naître en lui un grand projet. Et j'aimerais bien que vous nous en parliez.
Alors ça, c'est un projet, c'est vraiment un projet extraordinaire. Ce grand projet, quand il va arriver à Barcelone en 1851, en plus de toutes les responsabilités qu'il a et qui vont lui être données par l'évêque, il s'aperçoit que autour de Barcelone, il y a des masses, de concentrations de masses ouvrières. Les manufactures se sont installées. La Catalogne est en train de s'industrialiser très, très vite. Il y a toute une ceinture ouvrière autour de Barcelone. Et le père Palau voit ce monde ouvrier qui est désemparé, qui est loin, totalement loin de l'Église, loin de la foi, qui n'a aucune formation religieuse. Et il va mettre sur pied un projet qu'il a appelé l'école de la vertu. L'école de la vertu, c'est très, très moderne. C'est une catéchèse pour les adultes. Et pour les familles entières.
Et donc ça avait lieu quoi, une fois par semaine et
par semaine, et tous les dimanches.
Les ouvriers venaient. Il a écrit toute une
structure qu'on retrouve dans ses œuvres complètes. C'était très structuré. Tous les dimanches, du matin jusqu'au soir, il venait à l'église, dans une église de Barcelone, dont le nom m'échappe, je l'ai oublié, mais c'était à Barcelone. Toutes ces personnes venaient, elles passaient la journée et elles avaient un enseignement sur les vertus. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'école de la vertu, les vertus chrétiennes. Le sujet, c'était de leur enseigner les vertus chrétiennes pour que ces personnes qui étaient écrasées par le travail, souvent par la pauvreté, par des tas de choses, retrouvent leur dignité, se remettent debout à partir de l'amour de Dieu qui leur donne ces vertus et leur dire « Voilà, voilà ce qui est votre force, les vertus chrétiennes. »
Et ça, ça a fonctionné.
Il y a eu beaucoup de personnes qui ont participé
à cette école de vertu.
Absolument, ça a fonctionné énormément. Il y avait toute une équipe qu'il a mis en place autour de lui. Ça a un moment aussi à Barcelone créé des... ça a grippé un peu avec d'autres prêtres et le reste de l'Église. Alors. Là aussi, des jalousies, des rivalités, parce qu'on voyait cet homme prendre une place extraordinaire. Cette école de la vertu, c'était devenu, dans Barcelone, quelque chose qui rayonnait. Et donc, forcément, des jalousies, y compris dans l'Église. Et ça va durer 3 ans.
Et puis, il a quand même collaboré, dans le cadre de cette école, avec des mouvements, des associations qui œuvraient à la renaissance de la vie chrétienne.
C'était très, très construit. Ouais. C'était pas une œuvre...
C'était pas lui tout seul.
Non, c'était pas... Il était le moteur de tout ça, mais autour de lui, il a fédéré vraiment beaucoup de forces, des formateurs, et puis des tas d'associations, de mouvements, qui pouvaient apporter quelque chose pour... enseigner ces vertus chrétiennes à ces foules ouvrières qui venaient là une fois par semaine, tous les dimanches.
Ah, quelle fidélité, hein.
Et toute l'année.
Bravo, hein. Et toute l'année. Ça... Vous avez dit, Robert Jiménez, que François Palau subit la persécution, son école de la vertu va être fermée par décision gouvernementale et il va être exilé à Ibiza. Comment il réagit à ce moment-là?
Ah ben là, c'est assez extraordinaire parce que, bon, il a été accusé, bien sûr, de fomenter des grèves, de fomenter des complots, etc., ce qui n'était pas le cas. Et quand il arrive à Ibiza, on l'envoie à Ibiza, qui à ce moment-là, c'était le roi Ferdinand VII qui avait transformé l'île d'Ibiza en une espèce de lieu de confinement pour tout ce qui gênait, hein, tous les opposants au régime, etc. Et le père Palau, on l'envoie à Ibiza, c'est une manière de l'écarter, on se dit on n'entendra plus parler de lui. Et c'est exactement le contraire qui va se passer. Parce que le père Palau, dès qu'il arrive quelque part, la première chose qu'il fait, c'est voir comment il peut créer une petite communauté, comment il peut inviter les gens à la prière. Et dès qu'il arrive à Ibiza, eh bien, il va recréer autour de lui une communauté, ce qui fait qu'aujourd'hui à Ibiza, ce qui explique qu'au Baléares, il y a aujourd'hui des communautés de carmélites missionnaires qui sont nées de cette époque-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'être mis à l'écart, eh bien, il prend ce terrain.
Il continue son œuvre.
Il continue
fait.
Son œuvre parce qu'il a un charisme de fondateur, à la fois de prédicateur et de fondateur. Prêcher, ça ne lui suffit pas. Il prêche sans arrêt. Il a été prédicateur apostolique, ce qui n'est pas rien quand même. Prédicateur avec le derrière toutes les autorisations qui venaient de Rome. Mais c'est aussi un fondateur, ce qui explique que les carmélites missionnaires ont été fondés. Et à Ibiza, il va fonder des petites communautés d'hommes, de femmes. Ça va mettre très très longtemps, mais... petit à petit, ça va s'installer. Et il va continuer aussi sa vie contemplative.
Oui, donc en fait, c'est toujours lié. Il y a sa vie contemplative et sa vie apostolique.
Toujours, toujours. Ouais. Et ça, c'est un côté très moderne. C'est Marthe et Marie.
Ah oui.
Les premières sœurs qu'il va commencer à guider, quand les communautés de sœurs existeront, il va leur écrire des lettres. Ces lettres sont très belles. Il les appelle à un moment donné las Marias, les Maries. Et ça fait bien sûr allusion à Marthe et Marie. À l'évangile de Luc. Il les appelle les Maries parce que lui, il les installe dans une idée de les faire devenir contemplatives. Mais la réalité fait que ce n'est pas si simple que ça de rester purement contemplatif. Il
donc
faut
elles
vivre.
Sont aussi apostoliques.
Il faut vivre. Donc elles vont devenir apostoliques. Les évêques du lieu vont leur confier des écoles, des hôpitaux, des soins à domicile, enfin tout ce qu'on faisait au XIXe siècle, où l'Église était seule à le faire d'ailleurs, souvent. Et donc, ses sœurs, ses maris vont aussi devenir des martes. Et lui a besoin d'être à la fois contemplatif et actif. Ça, c'est une marque profonde de sa personnalité. Il est à la fois le père Carme qui porte le couvent dans sa tête. Le couvent qu'on lui a fait quitter, il l'a toujours dans sa tête et dans son cœur. Il l'a toujours, ce couvent. Cette clôture, elle est en lui. Même s'il ne peut plus y retourner. Mais il a aussi le besoin d'action et le besoin d'aller aux autres et le besoin de dire aux autres, ben, y a quelqu'un qui peut vous remettre debout et ce quelqu'un-là, c'est le Christ.
Et, oui, bien sûr.
Et ça, c'est l'Eucharistie, parce que c'est aussi un homme d'Eucharistie, L'Eucharistie, c'est quelque chose qu'il a brûlé toute sa vie.
Et homme d'Eucharistie, c'est un homme qui était profondément attaché à l'Église. Vous l'avez dit au tout début de cette émission, il avait vraiment un amour de l'Église. Et il reçoit une illumination spéciale sur le mystère de l'Église à la fin de son confinement, oui. À partir de 1860.
En 1860, alors que le gouvernement espagnol, à ce moment-là, l'a autorisé à mis fin à son confinement, il est donc revenu et il va devenir prédicateur, il va continuer à être prédicateur apostolique, entre beaucoup d'autres choses. Et là, il va aller un peu partout en Espagne, jusqu'à Madrid. Et à un moment donné, il va revenir au Baléares. Et il va revenir sur l'île de Menorca, à Ciudadela, à la cathédrale. Et c'est à une époque, il est là pour des prédications. Et il va avoir une illumination où il découvre enfin ce qu'il, un questionnement profond qu'il porte en lui, qui a commencé à son enfance et qui... C'est cette présence d'amour qu'il sent et qui est l'Église et qui va prendre le visage de Marie. Il a une illumination extraordinaire et il reçoit, il découvre que ce qu'il porte en lui, c'est le visage de l'Église, en fait.
Et comment il la voit, cette Église ?
Eh bien, il va la voir sous des traits féminins. C'est assez, parce que dans le livre qu'il va écrire, qui s'appelle « Mes relations avec l'Église », qui n'est pas très facile à aborder parce que c'est de la mystique pure. Donc, il faut connaître sa vie pour y rentrer. Mais dans ce livre, il va la voir sous des visages féminins de femmes de la Bible. C'est des femmes de la Bible et puis ça va arriver à être le visage de Marie. C'est le visage de Marie qui va être l'Église pour lui. Mais c'est une Église qui est personnifiée et c'est une Église qui va devenir pour lui à la fois Dieu et le prochain. Et ça, c'est très moderne. C'est-à-dire que ça, c'est une expression qui le caractérise, qui est un des fils conducteurs de sa pensée, c'est que sa vie spirituelle, c'est Dieu et le prochain. Dios y los prójimos. Dieu et le prochain. C'est-à-dire qu'il ne sépare pas les deux. Et de la même manière que sa vision de l'Église, c'est une Église dans laquelle il voit... La présence du Christ, c'est le Christ mystique, c'est une personne mystique, mais dans cette personne mystique, il y a les hommes et femmes. Il y a tous les hommes et femmes autour du Christ, qui est la tête, évidemment, qui est la tête de ce corps mystique. Et ça, c'est relativement moderne, parce que sa vision de l'Église au XIXe siècle...
Oui, ça change de l'image institution.
C'était une vision institutionnelle et qui n'avait rien à voir avec cette vision très, très théologique et mystique.
Oui, donc l'Église est vue pour lui comme une personne, elle est communion, et c'est vraiment visionnaire de Vatican II aussi, du Concile.
Absolument, et ça... je crois qu'il y a eu des livres écrits, là, je n'ai pas les titres de ces livres, mais il y a des théologiennes d'aujourd'hui, des théologiennes, des spécialistes d'ecclésiologie qui se sont penchées et qui ont étudié ces réflexions de Palau. Ça rejoint tout à fait ce que Vatican II va mettre à flot, la vue d'une Église de communion. Mais cette Église de communion, lui, sans y mettre les mots théologiques, encore qu'il a mis beaucoup de mots et de termes dessus, sans le définir de manière structurée, mais il portait ça en lui. Et il l'a exprimé dans mes relations avec l'Église. Il faut vraiment passer beaucoup de temps, mais on peut sortir de là.
Il a cette phrase très belle sur l'Église. Il écrit « Tu es, ô Église sainte, ma chose aimée, tu es l'objet unique de mes amours. Ah, puisque cela faisait tant d'années que j'étais en peine de toi, pourquoi te couvrais-tu le visage et te cachais-tu à ma vue ?»
Voilà, ça c'est vraiment Francisco Palau qui est entier là-dedans. Ouais. Ce sentiment que... mon aimée, celle qu'il appelait mon aimée, qui était à la fois l'Église et le Christ mystique et Marie et toutes ces images, se cachait, se voilait. Et c'est à Ciudadela en 1860, lors de cette révélation, qu'il va avoir l'impression qu'enfin, tout ça est dévoilé. C'est une révélation au sens propre du mot.
Oui, c'est ça.
Il a une vraie révélation, tout ça se dévoile et il voit que c'est l'Église et que c'est l'Église de l'Eucharistie, c'est l'Église de Marie qui est là, qui transporte tout cet amour et toute cette communion entre Dieu et les hommes. Et ça, c'est quand même, c'est pas rien à son époque d'avoir cette vision.
Alors, jusqu'à sa mort en 1872, François Palau poursuit son travail de manière intensive. Ça va l'épuiser définitivement. Finalement, pour... faire une petite synthèse en quelques mots de ce qu'il était, ce François Palao, qu'est-ce que vous diriez, Robert Jiménez?
On pourrait dire que ça a été un homme d'une trempe extraordinaire.
Un combatif, en
Père Carme, hein. Prêtre, un homme d'Eucharistie, combatif, et en même temps avec un sens de l'obéissance à l'Église totale. Donné, totalement donné, le don, l'idée de don aussi, même si lui ne l'a pas exprimé, mais c'est quelqu'un qui s'est donné totalement jusqu'à s'y épuiser et mourir d'épuisement. Il s'y est donné totalement, et c'est un homme, les carmélites missionnaires qui ont écrit pour lui disent qu'il est multifacético, multifacette. Ça a été à la fois, ben, en plus de sa vie de prêtre, de son... un prédicateur apostolique, écrivain. Il a été exorciste sur la fin de sa vie, catéchiste. Il a été, le père Palao a été également fondateur.
Oui,
ça, c'est un
dit.
De ses charismes
oui.
principaux. Et tout ça, il a toujours tout mené de front.
Et tout et ça son... ancré dans la prière,
ah, oui.
voilà, dans une vie contemplative.
Et un homme de prière et de contemplation. Mmh. Le mot contemplation, pour lui, à Ibiza, sur l'île d'Ibiza, il avait trouvé un îlot qui s'appelait le Vedra. On pouvait y aller en barque en demi-heure. Et il allait s'isoler sur cet îlot pour vivre sa vie contemplative.
Ouais.
C'est, voilà, un contemplatif et un actif.
En tout cas, une belle figure à découvrir, le bienheureux François Palao, dont nous fêtons la béatification le 24 avril. Merci beaucoup, Romère Jiménez.
Merci de m'avoir reçu. Merci, Isabelle.
C'était votre émission Vivante Église. Merci de votre fidélité.